Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bosuma.
Mort tragique du commandant du commissariat de la police de Muzipela à Bounia, le capitaine Sarkozy Shindano a reçu une grosse pierre à la tête alors qu'il venait secourir le ministre Angaïka, pris en otage par les déplacés à l'hôpital général de Bounia. Rentrée parlementaire aujourd'hui à Kinshasa, à l'Assemblée nationale, Obem Inako a souligné le caractère irréversible du processus électoral en cours et au Sénat, le président Kengo dresse un bilan largement positif des 11 années de fonctionnement de son institution. Et puis, ce soir, nous recevons la chargée de programme de l'ONG Solidarité Féminine pour la paix et le développement intégral. Cette ONG vient d'organiser un dialogue social à Mbaou, dans le territoire de Beni. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part de l'Ituri, où le capitaine Sarkozy Shindano, le commandant du commissariat de la police de Muzipela à Bounia, a été tué aujourd'hui dans l'après-midi dans cette ville. Selon sa hiérarchie, cet officier est allé intervenir au camp des déplacés de l'hôpital général pour sauver le ministre provincial Didi Angaïka, pris en otage quelques minutes plus tôt par des déplacés de Djougou. Sadiq Aboubakar s'est rendu sur place. Il nous parle des circonstances de ce drame.
Le ministre du Travail et Prévoyance Sociale, Didi Angaïka, s'est rendu ce jeudi dans l'après-midi au camp des déplacés avec une assistance de l'Institut National de Préparation Professionnelle, INPP, un service de son ressort. C'est en pleine distribution que certains déplacés ont dit identifier des gens qui leur sont hostiles dans la délégation du ministre. Ces derniers déclarent avoir été confondus à l'un des chefs coutumiers de Djougou par ces déplacés, ce qui a fait monter la tension d'un cran. Le ministre et sa suite ont été pris en otage par la foule. C'est à ce moment que le capitaine Sarkozy et d'autres policiers ont été dépêchés par les commandants ville pour les sauver. Ils ont fait usage de tirs en l'air et de gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Pendant l'évacuation du ministre, un inconnu lui a lancé une grosse pierre. Elle a plutôt fini sur Sarkozy qui est mort quelques minutes après. Cette nouvelle a plongé dans les mois plusieurs hommes de troupes et une bonne partie de la ville qui a été commandée dans le passé par cet officier. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Restant en Ituri, 13 corps en décomposition ont été retrouvés dans différents villages du territoire de Djougou. La députée nationale Espérance Moussafiri ainsi que d'autres sources coutumières locales rapportent que ces dépouilles ont été aperçues dans les collectivités de Baïma Nord, Baïma Baniwagi et Baïma Bagourou. Certaines sont enterrées tandis que d'autres jonchent encore le sol. Sadiki Aboubakar, encore une fois.
D'après l'honorable Espérance Moussafiri, c'est depuis plus d'une semaine que ces personnes ont été tuées lors d'une attaque de leur village au groupement Beliba en chefferie de Baïma Nord. Ce sont des rescapés du massacre qui ont alerté qu'il y a des corps au village. Mais le coin était inaccessible suite à l'insécurité. Ensuite, les FARDC ont réussi à y pénétrer et faciliter l'enterrement. Espérance Moussafiri.
Effectivement, l'un corps, c'était un corps déjà abîmé, et la population ensemble avec notre armée a procédé à l'enterrement de ces corps.
Ailleurs, l'ancien civil de Baïma Bagourou, qui cite des rescapés, dit qu'il y a encore un corps non enterré qui se trouve au village Bavigo. Le chef de la chefferie de Baïma Banyuagi affirme pour sa part que trois corps gisent encore à l'oignon depuis l'attaque de ce village le 9 mars en cours. Le président national du parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo, PUSIC, un parti de la majorité basée à Ituri, appelle les autorités militaires à déployer la force ou faciliter l'accès aux zones à la Croix-Rouge afin d'enterrer ces corps. Le porte-parole des FARDC en Ituri promet de s'informer d'abord auprès des troupes sur le terrain avant de se prononcer. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Rendons-nous à Kananga. Des cas de vol à main armée sont régulièrement enregistrés ces derniers temps. Les trois derniers ont eu lieu la nuit de mardi à hier mercredi dans les communes de Kananga et de Lukonga. Dans les trois cas, des témoins ont accusé des personnes habillées en tenue militaire et portant des armes, réagissant au mémorandum des prêtres catholiques et aux affirmations d'autres structures sociales qui accusent les autorités de ne point assurer la sécurité de la population. Le maire de Kananga affirme que les initiatives sont multipliées pour mettre fin à cette insécurité. Jean Mwamba Kantukanjila au micro de Joël Bofengo.
Chaque jour, nous suivons les traces de ces gens. Chaque jour, nous avons leur service qui nous donne des renseignements. Ces voleurs ne sont pas dans le ciel, ne sont pas dans les eaux, même pas dans les collines. Ils sont dans nos maisons. c'est la faiblesse de notre population. Si la population était en mesure de nous donner les lieux où logent ces gens, ce serait bien. Mais nous sommes l'État, nous continuons, nous allons vous présenter ces gens-là dans des maisons des gens, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, dans quel état qu'ils soient. Nous allons vous les présenter. Oui, avant-hier, j'étais dans une réunion de conseil de sécurité avec tous mes services. Les patrouilleurs sont augmentés. Voire même ceux qui ne sont pas habitués, par exemple, à faire la patrouille, nous les avons ajoutés. Les véhicules sont réparés. La ville de Kanan, qui n'avait qu'un seul véhicule de PNC, nous avons ajouté encore, on a réparé deux véhicules. Et nous attendons aussi le véhicule de la commune de Katoka.
Restons dans la région du Kasaï pour signaler la visite de deux jours de la chef de la MONUSCO. À peine arrivée à Kananga aujourd'hui dans la matinée, elle s'est rendue à Chikapa où elle a rencontré le gouverneur du Kasaï, des représentants de la société civile, des humanitaires et les responsables locaux de la MONUSCO. Après son entretien avec le gouverneur Marc Manyanga, Leila Zerougui a expliqué pourquoi elle a effectué sa première visite à l'intérieur du pays dans le Kasaï. Ses propos ont été recueillis par Joël Bofengo.
J'ai commencé par la province de Kasaï parce que votre province était au cœur de violences inouïes qui se sont déroulées ici. On a 1 million de déplacés, donc c'est quand même des conséquences dramatiques de la crise sécuritaire et humanitaire dans cette province. Je suis là aussi parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements, des populations qui sont de retour, d'autres qui ne sont pas encore rentrées. Il y a eu des personnes tuées, des personnes blessées, des femmes violées, il y a eu beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je suis là. J'ai rencontré les autorités en premier parce que d'abord je suis leur invitée, mais aussi pour m'assurer qu'on fait ce qu'on peut et on essaye de travailler ensemble avec les autorités pour faire en sorte que cette crise sera contenue et qu'on ramène la paix, la stabilité.
À son retour à Kananga cet après-midi, Leila Zerougui a rencontré l'archevêque Marcel Madila avec qui elle a discuté de la situation de la région. Elle a également rencontré des représentants de la société civile et des humanitaires. Demain, elle se rendra à Mbujimayi avant de rentrer à Kinshasa. Justice. Le ministère public a requis hier au cours d'une audience publique la peine de mort pour tous les prévenus déférés devant la cour militaire du Katanga, siégeant en chambre foraine à Kamina. Ils sont poursuivis pour, entre autres, crimes de génocide après avoir tué et enterré dans une fosse commune d'autres combattants qui étaient à la base militaire de Kamina. La défense, quant à elle, a sollicité la disqualification de l'infraction de génocide en celle de meurtre. L'affaire a été prise en délibéré. Explication, Colin Dumas-Moussampo.
Au cours de cette 6e audience, le ministère public a requis la peine de mort pour tous les prévenus. La partie civile a pour sa part demandé qu'au-delà de cette condamnation, que le prévenu soit condamné solidairement avec l'État congolais qui, d'après eux, a failli à sa mission. Ils ont aussi demandé que chaque prévenu paye la somme de 5 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts aux familles des victimes. Dans leur plaidoirie, les avocats de la défense ont d'une part sollicité la disqualification du crime de génocide américain. De l'autre, ils ont plaidé pour l'acquittement de deux d'entre les prévenus, faute de preuves de leur responsabilité dans cette affaire. La cour militaire a pris cette affaire en délibéré et son verdict est attendu pour ce vendredi. Notons que les plaidoiries interviennent après une descente sur terrain à la base militaire de Kamina pour la reconstitution des faits. À cette occasion, la cour et toutes les parties au procès se sont rendues à l'endroit où trois fosses communes avaient été découvertes. De retour de Kamina, Colin Djuma Moussompo, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi l'ouverture de la session parlementaire dans les deux chambres du Parlement, aujourd'hui à Kinshasa, à l'Assemblée nationale. Dans son discours d'ouverture, Aubin Minaku a attiré l'attention des députés à ne pas limiter leur attention aux enjeux électoraux uniquement, mais de s'investir aussi dans le vote des lois et le contrôle parlementaire en faveur des autres secteurs de la vie nationale. Cependant, souligne le président de l'Assemblée nationale, le vote de la loi sur la répartition des sièges, l'examen du rapport financier de la CENI ainsi que le remplacement du rapporteur de la centrale électorale sur demande de l'UDPS sont des matières prioritaires au cours de cette session. Aubin Minaku.
Plusieurs jours avant la fin effective de notre mandat, nous allons de nouveau nous assumer tant sur le plan législatif que sur le plan du contrôle parlementaire. La session qui s'ouvre aujourd'hui est en fait la dernière session ordinaire normale de la présente législature. à l'heure qu'il est, par quel levier peut-on jauger l'intérêt de la République? C'est, je crois, la tenue effective des élections le 23 décembre. C'est la priorité des priorités. Parmi nos priorités arrive ainsi en ordre utile la question de l'adoption de la loi fixant la répartition des sièges. Au cours de cette session, nous devons œuvrer pour asseoir davantage la confiance réciproque entre les acteurs politiques. L'une des façons pour renforcer cette confiance est de permettre aux députés nationaux de pouvoir débattre du rapport de gestion financière de la Commission nationale électorale indépendante, CENI en sigle.
Et au Sénat, le président Léon Kengo-Adondo a dressé un tableau de la situation socio-économique de la RDC. Dans son discours d'ouverture, le président du Sénat dresse un bilan largement positif des 11 années de fonctionnement du Sénat depuis son installation en 2007 avec le vote de plus de 250 lois, mais il s'indigne du manque d'application des lois votées. Écoutez Léon Kengo-Adondo.
Nous venons de totaliser 11 ans au Sénat depuis notre investiture en 2007. Le Sénat a reçu mission de voter les lois et de contrôler le gouvernement, les établissements et les services publics. Pendant les 11 ans, notre chambre n'a pas été en reste. En sus d'une intense activité, dans le cadre du contrôle parlementaire, elle a voté 250 lois. C'est un score louable. Aujourd'hui, nous avons la force d'affirmer que le Sénat a usé sa vocation et sa capacité à construire une vision à venir de la nation. Nous avons le devoir d'identifier les faiblesses et les causes de l'enlisement pour une recherche positive de pistes et de solutions. Dans cette optique, il n'est pas superflu de nous demander si le mal ne se situe pas au niveau de l'application des lois votées. Nous nous approchons inexorablement des échéances électorales. Le Sénat est tenu de rassembler tous les efforts pour que les contraintes relevant de sa compétence se soient levées.
Dossier réalisé par Michel Kifindangoy. Et puis, tractation politique en République démocratique du Congo, l'UDPS, le MLC et l'UNC viennent de signer une déclaration commune ce jeudi à Kinshasa. Ces partis politiques de l'opposition s'engagent à unir leurs efforts au sein d'un front républicain et démocratique pour la tenue effective en décembre 2018 des élections. Ils ont dans leur déclaration rejeté l'usage de la machine à voter, suivant l'extrait de leur déclaration lue par Eve Bazaïba au micro de Askenzi Biataoro.
Ils ont réaffirmé sans ambages, d'une part, leur détermination d'aller aux élections cette année, en 2018, et d'autre part, le rejet de la machine à voter à la loi sur le financement des partis politiques dont les dotations budgétaires n'ont jamais été exécutées. De ce fait, l'État devrait prendre en charge les frais de dépôt des candidatures. Au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre dans son application intégrale, de l'engagement à continuer les contacts et échanges comme ceux commencés avec les partis lumumbistes unifiés, PALU en sigle, en vue de l'émergence d'un large front républicain et démocratique sur l'échiquier national et gagner ensemble les élections à venir.
Et à propos des trois manifestations pacifiques organisées les 31 décembre 2017, 21 janvier et 25 février 2018 par le comité laïque de coordination, un rapport dit alternatif et pédagogique vient d'être publié aujourd'hui par 23 ONG des droits de l'homme. Ce rapport qui concerne toute l'étendue de la RDC rappelle à la police son rôle de sécuriser les personnes et leurs biens, condamne l'usage disproportionné de la force pour réprimer les manifestants et recommande la désobéissance à tout ordre injuste non constitutionnel. Il donne un bilan de 15 morts pour les trois manifestations à travers le pays. Écoutez à ce sujet le président des Amis de Nelson Mandela pour les droits de l'homme, Robert Ilunga, au micro de Jeff Ngoy.
Les ONG de défense des droits de l'homme veulent bien contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme en RDC et lutter surtout contre l'impunité des auteurs de ces dites violations. Un plaidoyer sur le plan national et international sera ainsi mené. Le présent rapport rappelle plusieurs dispositions internationales et nationales. L'article 183 de la Constitution stipule que la police nationale est apolitique. Elle est au service de la nation congolaise. L'article 28 dit ceci: nul n'est tenu de exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. Un policier peut refuser d'exécuter un ordre mal donné et si même il trouve que cet ordre-là viole les droits de l'homme. C'est la Constitution qui le dit. Dans quel pays où nous voulons évoluer? Nous voulons un pays des droits.
Notez que ce rapport vient après celui de la commission gouvernementale mixte à laquelle ont participé ces ONG qui estiment y avoir été comme source d'information. Le rapport de cette commission a donné un bilan de 14 morts et s'est limité à la ville de Kinshasa et a porté sur 2 manifestations publiques.
Actualité Afrique Monde.
Les peuples du Mali sont en colère. Ils dénoncent les amalgames qui tuent. Rien que la semaine dernière, plus de 25 d'entre eux ont été assassinés, soit sans raison, soit parce qu'ils sont accusés de collusion avec les djihadistes. Et lors d'un rassemblement aujourd'hui à Bamako, plusieurs centaines de personnes ont manifesté leur ras-le-bol vis-à-vis de cette situation. Et au Gabon, début aujourd'hui au tribunal de Libreville, des premières audiences de la Cour criminelle spéciale créée en janvier dernier pour juger les hauts cadres poursuivis pour des détournements des biens publics. Blaise Ouada, qui gérait un projet d'assainissement de Libreville financé par l'Union européenne, sera le premier à la barre, mais après lui interviendront d'anciens ministres de confiance d'Ali Bongo. En dehors de l'Afrique, après les sanctions prises par le Royaume-Uni contre la Russie, suite à l'empoisonnement de l'ancien espion russe et de sa fille Salisbury, sur le sol britannique, Londres se prépare désormais à des représailles de la part de Moscou.